Chapitre 1 Au pignon rouge. Une maisonnette aux murs blanchis s'élève, isolée sur une colline dont le pied baigne dans le Saint-Laurent. C'est la première de Saint-Germain de Kamouraska, du côté de l'Est. Quand le voyageur ou le touriste suit le contour de l'anse qui tend son arc et creuse les terres en face du phare, l'été, il aperçoit de loin un pignon rouge, comme un sourire au travers d'un voile de feuillage. Au soir d'automne et d'hiver, la lumière d'une lampe qui brille à ce foyer perce la fenêtre et indique la route à poursuivre dans la brume humide ou la giboulée des neiges aveuglantes. C'est là que vit, dans le travail et la solitude de chaque jour, la veuve de Gilles Pellerin, qui ne lui a laissé pour tout bien qu'un arpent de terre à cultiver, son fils Jean à élever et le souvenir d'un bonheur domestique dont elle entretient le reste de sa vie. Le ménage de Gilles Pellerin et de Cécile Dubreuil avait été de courte durée. Caboteur d'une rive à l'autre du Saint-Laurent et de Québec au port du Golfe, Gilles avait à peine défrayé le coût de sa goélette qu'il songea à se créer un foyer domestique, à se loger chez lui, sur la bonne terre de sa paroisse natale. Dès ce moment, la tâche au foyer lui devint pénible quand il lui fallait partir, non plus allègrement comme autrefois, mais avec le regret au cœur de laisser à terre des êtres chéris qui pourraient souffrir de son absence. Aussi, lorsqu'à la mort de son vieux père, le poste de gardien du phare de la grosse île devint disponible pour les partisans fidèles du gouvernement, il n'hésita pas à rechercher à son tour cette fonction en même temps au pignon rouge. Un honneur officiel, puisque, c'était bien connu, jamais à aucune élection générale ou particulière, les pèlerins de père en fils n'avaient trahi leur allégeance de partisans. C'était la vie facile, les margements au budget gouvernemental, et malheureusement, beaucoup trop de nos cultivateurs seront prêts comme lui à délaisser le travail et le rendement des champs pour une pitance de $600 au service de l'État. Mais aux yeux des villageois, n'est-ce pas un prestige d'être le choix des gens en autorité? Le printemps, quand les glaces des battures surchargées des neiges fondantes de l'hiver se seront détachées de la rive pour suivre l'attraction des courants du Grand Chenal, la famille délogera de la maisonnette au pignon rouge, où les longs mois de la saison mauvaise auront été vécus dans le bonheur domestique, l'aisance relative et l'assurance du lendemain. On s'en viendra habiter, comme dans une villégiature, le chalet propre édifié par le gouvernement à l'ombre de l'immense tour au sommet de laquelle, chaque soir, par le vent d'orage ou sous un ciel serein, s'allumera l'œil incandescent du phare, clignotant toute la nuit à double intermittence au-dessus de la forêt de sapins, dans le clair-obscur des feux attardés du crépuscule jusqu'aux rayons anticipés de l'aurore. Dans l'isolement et le silence, la petite famille vaque aux occupations domestiques, tandis que son chef, une fois le phare éteint, s'amusera à la culture d'un potager, peut-être, à la pêche et à la navigation de plaisance dans un joli yacht que lui fournit le gouvernement. Deux ou trois fois la semaine, le dimanche, si la marée adonne, pour assister à la messe dans l'une ou l'autre des paroisses de la rive sud, plus souvent pour aller quérir les papiers de la poste, les nouvelles du village ou quelques effets des magasins, il traversera les 2000 du bassin qui le retiennent à l'écart de ses coparoissiens. Pourvu que, le soir, il soit là pour mettre et tenir en mouvement le mécanisme de l'œil de feu qui veille et brille durant toute la nuit sur ce mauvais parage. Un soir d'automne, quand novembre avancé avait déjà jeté sur la nature la teinte de ses tristesses, quand les champs dénudés, les routes noyées et le rocher des grèves toujours ruisselant offrait partout à l'œil le spectacle de la misère succédant à l'enchantement, Gilles Perrin se trouvait seul à son poste, veillant au salut des navigateurs en péril, dont il connaissait bien l'anxiété par un temps pareil, pour en avoir tant de fois lui-même couru l'aventure. Car une affreuse tempête soufflait du nord-est, creusant dans les eaux insondables, au nord de l'île, des vagues furieuses, dont les embruns se confondaient avec une neige épaisse, à l'assaut des contreforts du rocher et de la tour. La veille, heureusement, il les avait lui-même reconduits, dans la joie prévue d'un hivernage heureux. Sa femme et son enfant avaient réintégré, sur la terre ferme, la maisonnette au pignon rouge. Ce fut l'une de ces nuits lugubres qui offrent toujours aux âmes inquiètes des familles de marins le décor terrifiant du naufrage. De temps à autre, à travers la nuit noire et les tourbillons rageurs de l'ouragan, le phare lançait son jet de lumière, comme l'adieu d'un œil mourant, sur la fenêtre du pignon rouge. Et jusqu'aux premières heures du matin, la lampe du foyer, accrochée au chambranle du châssis sans rideau, resta, elle aussi, vacillante et vaillante, pour dire aux veilleurs de l'île qu'on ne l'oubliait pas dans sa détresse, que par la pensée et par la prière, on lui restait secourable. La tourmente se prolongea durant toute la journée du lendemain, sans qu'il fût permis d'apercevoir du rivage le profil des îles, sans qu'aucune embarcation pût risquer d'affronter les flots courroucés. Mais sur le soir, lorsque la tempête s'apaisa et le ciel s'éclaircit, on remarqua, hélas, que le phare ne s'allumait pas. Impossible, à cette heure de la marée basse, de rallier l'île en canot et de s'enquérir de Gilles Pellerin. Après cette deuxième nuit d'anxiété encore plus profonde pour la femme et son enfant, le premier communiqué apprit à tous que le yacht du gouvernement avait été trouvé au plein. Ses voiles encore carguées et sa chaîne de mouillage rompue indiquaient qu'il ne s'était pas perdu en course, mais qu'il avait tout simplement été entraîné par la bourrasque. Quant à Gilles Pellerin, les recherches les plus empressées, les battues les plus complètes dans les cinq îles et sur tous les rivages n'apprirent à personne ce qu'il en était advenu, si ce n'est que sur la grève de la pointe aux Orignaux, à 7 000 en amont, son canot fut retrouvé. Ce qui servit de base à la théorie de son naufrage et de sa perte. À la vue du yacht chassant sous la bourrasque, il aura voulu aller à son sauvetage. N'hésitèrent pas à croire tous ceux qui connaissaient sa témérité et son zèle. Seul dans la vague qui se creuse et se redresse avec furie, il aura été submergé, et son cadavre, entraîné par les courants, est là, probablement au fond des précipices sous-marins de ces parages, où la sonde perd sa touée et où la pression énorme des eaux l'empêchera de remonter jamais à la surface. Pendant quelque temps encore, le deuil des parents, la sympathie des amis, l'anxiété des recherches entretiendront dans les âmes le souci du sort de Gilles Pellerin et des siens. Puis, l'absence d'informations nouvelles, l'inanité des suppositions étendront peu à peu l'indifférence sur son souvenir, de même que se sera rétablie la placidité des eaux sur ses restes mortels. Non, pourtant, ne médisons pas du cœur humain. Du fond de l'abîme, il remontera sans cesse ce souvenir de Gilles Pellerin, pour hanter l'âme pieuse d'une femme et d'un enfant qui n'apprendront pas à l'oublier. Chaque fois que du haut de la tour blanche s'ouvrira l'œil fulminant du phare, par-dessus les embruns des vagues tourmentées ou l'irradiation des feux crépusculaires sur les ondes alanguies, il surgira ce souvenir dans ses cœurs aimants. Il appellera sur les lèvres la prière, seul foyer d'amour qui reste aux morts. Car c'est pour ceux-là surtout qui vivent dans la peine que la confiance en Dieu se fait consolante et douce. Quand le monde, avec ses antipathies méchantes, ses égoïsmes inconsidérés et ses goûts frivoles, s'impatiente enfin aux redites des mêmes doléances, il fait bon de pouvoir ouvrir son âme à celui qui, un jour heureusement inévitable, rétablira un équilibre éternel entre les parts de ceux dont la vie fut une jouissance et ceux qu'elle a fait amèrement pleurer. Cette lumière intermittente, aujourd'hui de malheur, en d'autres temps et sous d'autres cieux, elle deviendra encore symbolique et représentera l'âme canadienne aussi, en péril. L'amour du sol natal dans la vie, n'est-ce pas ce phare qui ne s'éteint jamais que pour se raviver bientôt? Encore une fois, et pour cette fois comme pour l'avenir, ne médisons pas du cœur humain. Car depuis cette catastrophe, la veuve pèlerin et son fils ont su vivre, avec le regret sans doute de leur bonheur familial trop tôt révolu, grâce à l'aide et à la sympathie pratique de bons voisins. Pendant les premiers mois de leur détresse, la charité discrète de leurs co-villageois s'employa à trouver les moyens de parer à l'imprévu de leur nouvel état de vie. C'était l'automne, à l'époque où l'on ne peut, avant de longs mois, demander à la terre le salaire de son propre travail, mais où l'on doit compter sur ce qu'elle a bien voulu donner aux autres. C'était à l'époque aussi où, dans nos campagnes, une belle coutume vous obligeait, quand la saison vous avait été propice, de faire honneur à celui-ci, ou de faire aumône à celui-là, d'une pièce particulièrement bienvenue dans le potager ou des morceaux de choix de la boucherie. De ci, de là, cadeaux complémentaires ou charitables affluèrent dans le garde-manger de la pauvre famille, qui se trouva amplement pourvue pour les mauvais jours. Mais il fallut aussi pourvoir à l'avenir. À quoi le curé de la paroisse consacra toute l'ardeur de son zèle pastoral? L'éducation de Jean, l'orphelin, lui revenait de droit, dit-il. L'enfant, grâce à ses soins tout particuliers, eut l'avantage de fréquenter quotidiennement l'école du village. Trop éloigné cependant pour qu'il pût s'y rendre deux fois le jour, l'hiver surtout. Le bon curé faisait alors de l'orphelin son hôte au dîner, ce qui lui permettait non seulement de suivre ses progrès scolaires actuels, mais de préparer insensiblement son instruction supérieure. Maintenant, sur la fin du jour, puisque le phare est éteint, c'est à travers champ que maman pèlerin jettera le plus souvent les yeux pour voir si Jean s'en revient de l'école, anxieuse de lui entendre raconter les faits intéressants de sa journée. Car ils étaient bien intimes, bien consolants aussi, les colloques de la mère et de l'enfant, l'échange des idées qui leur étaient venues à l'esprit, de ce qu'ils avaient vu ou entendu durant la longue journée d'absence. Et cette intimité établissait entre eux une confiance sérieuse, qui transformait à leur insu l'autorité de l'une et l'ingénuité de l'autre. La mère ne commandait plus à son fils, elle le consultait sur toute chose, inquiétude lancinante ou vétille. Elle en faisait le confident de ses appréhensions et de ses espérances, comme de ses peines et de ses consolations. Des menus détails de ses ennuis durant son absence ou de son labeur rétribué qu'elle ne dédaignait pas d'aller offrir dans les habitations du voisinage. De son côté, Jean avait à lui raconter ce que monsieur le curé voulait bien lui dire, ce qu'il avait fait lui-même au cours de toutes les longues heures qu'il avait dérobées à sa vue. Oh, Jean, c'était son univers à elle, pauvre femme seule et désolée. L'horizon de son savoir et de ses affections ne pouvait plus dépasser désormais le rayon des courses quotidiennes du petit orphelin. Plus tard, quand les bancs de neige qui encaissent les pignons rouges auront disparu, quand le renouveau de la nature appellera au dehors ceux qui vivent de la terre, elle l'attendra, son aide et son confident, pour lui apprendre ce qu'elle entend faire de l'arpent de terre, pour situer ici ou là l'ensemencement du jardin potager. À cette époque aussi s'accuseront de nouveau les sympathies pratiques des voisins, qui ajouteront discrètement à leurs travaux annuels du printemps la culture charitable de cette pauvre glèbe. Le calme et une aisance relative régneront donc au Pignon Rouge durant les beaux mois qui vont venir. À la fin du mois de juin, un soir, Cécile Pellerin, assise à la fenêtre de sa maisonnette, regardait avec un amour plus intense son fils Jean, dont les succès scolaires avaient été couronnés, à la grande joie de monsieur le curé, sous les yeux attendris des villageois, au cours de la distribution solennelle des prix qui avait eu lieu dans l'après-midi. Elle voyait l'enfant s'amuser à lancer du rivage de petits galets qui s'en allaient ricochant deux ou trois fois sur le miroir rutilant de l'onde endormie pour s'y engouffrer ensuite, qui un peu plus tôt, qui un peu plus tard, mais infailliblement. À son esprit de paysanne, monta alors de son pauvre cœur toujours endeuillé comme un regret vague et mal compris de l'inanité finale de tous nos efforts et de toutes nos allégresses sur la scène parfois sereine et riante aussi de notre vie. Soudain, son front s'assombrit, ses yeux se fermèrent à demi, et d'une voix tendrement émue, « Viens, dit-elle, viens donc, mon Jean, pour le chapelet des morts, voilà le phare qui s'allume. » Chapitre 2. Le cousin d'Amérique. Cette villa durait depuis une dizaine d'années déjà. Jean Pellerin en aura bientôt 16, et rien n'avait troublé durant ce laps de temps la sérénité, toujours quelque peu empreinte de tristesse, qui régnait au Pignon Rouge. Mais l'heure viendra prochainement où de nouveaux soucis vont naître, où il faudra définitivement orienter l'orphelin dans son avenir. Ses succès rapides à l'école élémentaire, sa conduite exemplaire, son ardeur au travail, les aptitudes plus que moyennes de son intelligence, tout chez lui avait concouru à capter l'estime du public, et plus que tout autre, celle du vieux curé, qui valait bien une affection toute paternelle. Entre le prêtre et son élève, les entretiens étaient devenus plus sérieux. Le programme des études primaires avait depuis assez longtemps fait place à celui des premières classes d'humanité. C'était toujours un plaisir pour le vieillard de revenir avec cet enfant intelligent sur les brisées maintenant lointaines de ses premiers efforts personnels chez les classiques. Et pour Jean, c'était un honneur qu'il n'aurait pu de lui-même convoiter, d'être ainsi appelé à monter un jour, peut-être, au niveau d'esprit de l'homme le plus cultivé de tous ceux qui lui avaient été jusqu'à présent donnés de voir et d'entendre. Au logis, maintenant, l'entretemps des classes reste rempli sans doute des effusions d'amour maternel et filial. Mais que d'heures aussi s'écoulent silencieuses, pour l'un devant le livre et pour l'autre à l'évocation secrète de choses inconnues de l'avenir, et de choses, hélas, trop connues du passé. Le beau rêve d'avenir, il s'était inopinément offert un jour à l'esprit de la pauvre mère comme un rayon de soleil perçant tout à coup son ciel bas et morne. « Savez-vous, maman, lui avait dit Jean un soir, ce que pense de moi, monsieur le curé ? Hier, me parlant un peu, comme ça, des choses tristes dont il est témoin dans les familles du village, où il est chargé d'aller annoncer quelques malheurs et plus souvent appelé pour les consoler, il a fini en me disant « Tu en verras bien d'autres, va, mon Jean, quand tu seras prêtre. » Lui, Jean Pellerin, prêtre un jour ? Elle, un jour, l'ignare, presque la miséreuse, voir son fils unique monter à l'autel, la bénir, la communier? Non, ce ne sera qu'un rêve. Si heureux cependant qu'il fût du perfectionnement moral et intellectuel de son élève, Le prêtre s'inquiétera bientôt du résultat de son zèle, du mode tant soit peu inconsidéré de son action charitable. Cet enfant, ainsi élevé, n'aura pas joui des amusements de l'enfant. Retenu trop tôt et trop longtemps dans l'orbite, chez lui, d'une âme toujours en deuil, chez son précepteur, d'une intelligence trop au-dessus de son niveau, il n'aura rien connu des folâtreries de l'enfance, qui s'évaporent sous l'ardeur du grand jour, mais qui sont à la vie ce que la rosée et les clairs rayons du matin sont à l'élaboration des fleurs et des fruits. Et quand, une couple d'années plus tard, le vieux précepteur enfin s'apercevra que cette plante sauvage s'est étiolée en serre chaude, ne sera-t-il pas déjà trop tard? En outre, j'en aura-t-il pas déjà revêtu la mentalité de l'homme instruit seul, qui n'a pas suffisamment pratiqué la vie d'ensemble à l'école, au collège surtout, où les caractères, sous un frottement inévitable, perdent forcément ce qu'ils auraient naturellement pu offrir de trop anguleux? Il sera intelligent, digne, brillant, soit, mais aussi, probablement, entier, personnel dans ses déterminations, seul à comprendre et interpréter la vie comme il aura compris et interprété sa jeunesse. Au reste, une considération plus certaine, sinon plus terre à terre, devait faire songer à modifier, à quelque temps de là, ce train de vie. Les vacances d'été s'ouvraient, et tous ceux qui voulaient bien, à cette occasion, féliciter comme toujours l'adolescent pour son travail et ses succès, ne manquaient plus d'ajouter qu'il avait besoin de repos. C'était connu. Le médecin du village n'avait-il pas affirmé dans un moment d'humeur que, malgré tous ses progrès intellectuels, à ce jeu-là, le fils de la veuve pèlerin ne ferait qu'un neurasthénique. Il fallait rompre un peu avec la monotonie de cette existence. Or, précisément, plusieurs choses allaient s'y prêter cette année-là. Jean, par ses études et son développement physique, n'est plus l'enfant, mais disons plutôt le jeune homme. Assagi de bonheur par l'épreuve, de moitié dans tous les soucis dont s'ordonne le train de vie de l'humble maisonnée, il se trouve, pour ainsi dire, émancipé de la sujétion puérile et naturelle qui s'impose aux autres étudiants de son âge. On lui permettra donc de faire des projets, d'émettre des opinions, d'en venir même à des décisions qui eussent paru intempestives ailleurs. Or, voici venir l'heure où le caractère déjà formé de Jean va s'affirmer pour la première fois. Émile Dupin, cousin de Jean, fils d'une famille canadienne, qui, il y avait plus de 30 ans, s'en était allé avec tant d'autres chercher fortune dans les villes industrielles des États-Unis, se trouvait alors en villégiature avec les siens au bain de mer de Kakuna. Autant le fils pèlerin, victime du malheur que nous connaissons, avait été élevé dans la réserve et le dénuement, autant le cousin Dupin, fils unique aussi lui, avait grandi jusque-là dans l'opulence du parvenu et la semi-liberté de l'éducation familiale de nos voisins. Fier de ses capitaux, assuré d'un avenir doré, il a de bonne heure su compter sur lui-même, traiter son père comme un prédécesseur au négoce ou à l'industrie qui procure l'argent, comme le maître actuel d'une concerne qui lui reviendra, nécessairement, et celui qu'on appelle bénévolement « holdman » ou « governor » au foyer familial, il a su vivre enfin comme l'on vit en pleine éclosion de la liberté pratique anglo-saxonne. Toutefois, d'un tempérament complexe, il accusait quand même certaines qualités d'un cœur bien né, que la bonne culture eût fait des plus généreux. Il le prouvera, par exemple, une première fois, au grand effarement édifié de tous les paroissiens, le jour où, descendant de sa superbe limousine, frappant au pignon rouge, il demandera, sans vaine jactance, à embrasser sa bonne tante pèlerin et son cousin Jean. Il y avait si longtemps que leur parenté était perdue là-bas qu'on ne savait plus compter sur aucune sympathie pratique des Dupin. Voir ses parents fortunés revenir à eux, braver généreusement le respect humain et l'inégalité du sort, accuser, disons cela, le meilleur côté peut-être de la mentalité américaine, devait produire un effet étrange sur l'esprit de ces deux pauvres et sur la destinée de Jean. Émile Dupin est un jeune homme instruit. Il termine des études médicales poursuivies ici et là dans les universités les plus célèbres de la Grande République, au gré de ses caprices et des ressources paternelles. Avant d'aller parfaire toutes ses connaissances de haute pacotille dans les hôpitaux et les laboratoires les plus renommés d'Europe, avant de réaliser que la science creuse la vie mais ne la comble pas, il entend bien, puisqu'il en a le temps et les moyens, faire son tour complet d'Amérique, comme l'artisan français faisait autrefois son tour de France. Et cette année même, il suivra les cours de Laval à Québec. Voilà comment, entraîné à la fois par les réminiscences et les suggestions paternelles, comme aussi dans le mouvement du tourisme américain, il lui a plu de s'offrir le spectacle de la belle nature laurentienne, de se donner du grand air dans cette patrie de ses pères dont on lui a parlé souvent là-bas, à l'ombre des grandes usines où l'on n'entend que bruit mécanique, où l'on ne s'entretient que de richesses et de gains, et dont les murs si élevés dérobent la vue du ciel. Les premières entrevues des Dupin et des pèlerins furent sans doute la cause d'une émotion béate pour ceux-ci, et pour les premiers remplie d'une bonté quelque peu tarée d'orgueil satisfait. Mais dans cette première visite chez sa tante et son cousin, Émile Dupin eut bientôt fait, quant à lui personnellement, par sa conversation et ses manières désinvoltes, de rompre, de fondre plutôt la glace qui retenait tout d'abord les pauvres gens dans une gêne presque apeurée. L'on était parents, quoi, et l'on allait bien s'amuser. Dès le lendemain, ce fut avec enchantement, et crainte aussi, que la veuve et son fils prirent place dans l'opulente limousine pour aller rendre au père et à la mère d'Émile leurs civilités apparentées, puisqu'on voulait bien ne pas les dédaigner. Heureusement, les cœurs canadiens se reconnurent et battirent à l'unisson sous leurs défroques pourtant si disparates. La voix mystérieuse de la patrie leur parla délicieusement d'une communauté de sentiments, de souvenirs, de bonheurs juvéniles que les hasards fortunés ou méchants de la vie n'avaient pas su détruire chez aucun d'eux. Oh oui, comme l'on allait bien s'entendre durant cette villégiature, d'une part au noble plaisir de réjouir des malheureux, et de l'autre sous l'emprise de cœurs généreux. Le jour tombait lorsque la voiture des Dupin stoppa de nouveau au Pignon Rouge. Une allégresse qu'il n'aurait pu rêver chantait dans l'âme de la veuve et de son fils. Tout riait comme jamais auparavant autour d'eux dans la nature. C'était pourtant la même maisonnette, pauvre et seule, qu'ils voyaient là, devant leurs yeux illuminés de joie. Les mêmes buissons d'aubépine au ras des fenêtres, et derrière, le profond vallon qui s'enténèbre déjà dans l'arc de la montagne ronde. C'était la grève en avant, avec ses sables d'or et ses galets que le flot montant couvre de caresses accoutumées. C'était la route, la bonne route, longue, courbe, tant de fois parcourue à pied sec ou boueux, ruban blanchâtre que la puissante machine semblait tout à l'heure dévider comme l'araignée fait de son fil. Mais combien tout cela apparaît aujourd'hui clair et réjouissant à ces pauvres yeux qui devant tout cela ont tant pleuré. Voyez donc, ma bonne tante, là-bas, sur l'île, cette lumière subite. Ah oui, cher enfant, c'est le phare qui s'allume. Quelques instants plus tard, l'automobile dévalait en ronflant sous la falaise de la Pointe Sèche, tandis que, au pignon rouge, porte close, deux âmes, différemment impressionnées de cette journée de bonheur, mais traversées soudain par un triste souvenir, s'étaient mises en prière pour les morts. Cette première semaine des vacances, remplie d'une agitation si insolite pour les pèlerins, devait voir surgir encore un projet troublant pour eux, et d'une conséquence qu'ils ne reconnaîtront que tardivement. Émile Dupin n'est après tout que l'un de ces touristes américains qui, par milliers, viennent chaque année prodiguer chez nous leur admiration de commande avec leur argent. Les sentiments personnels qui peuvent parler au cœur de son père et de sa mère, qu'il simulera peut-être de partager par déférence ou pour ne pas y contredire, à son fort intérieur tout d'abord ne diront presque rien, à lui qui est né et qui a vécu jusqu'à présent sous un autre ciel. De là, pour lui, le désir irrésistible de passer outre aux choses du village natal de sa famille, pour voir ailleurs et voir encore, de poursuivre un itinéraire et un programme, afin d'avoir plus tard à en parler sciemment. L'acquaintance momentanée de ses parents canadiens ne sera qu'un épisode de voyage, une sorte d'idylle d'amour familial, impromptue et passagère. Il a déjà tant voyagé, tant vu, tant appris. Jean, au contraire, n'est qu'un primitif, ne connaissant guère que les choses concrètes de son village et le rêve ténu qu'a pu laisser dans son esprit la lecture des livres. La maladie qui s'annonce chez lui ne fera qu'accentuer l'irréalisme de son rêve, maintenant surtout que la vue du bonheur apparent de la vie a éveillé en son esprit une appétence qu'il ne soupçonnait pas encore. Ce projet qui s'offre aux deux cousins, aux touristes riches, férus de la passion du voyage et du mouvement, à l'autre dénué, rêveur et maladif, c'est une croisière de quelques semaines dans les eaux laurentiennes. Ce sera, n'est-ce pas, à la fois agréable et salutaire. Émile s'enquérera à loisir des attraits si vantés du paysage canadien, sur les rives du Grand Saint-Laurent, celles du sauvage Saguenay, les îles du Golfe, la côte du Labrador peut-être. Jean, dont la complexion s'est anémiée dans la réclusion de ses jeunes années, retrouvera sur les eaux de mer la vigueur de ses pères. C'était une grave détermination à prendre, toutefois, au gré de la mère pèlerin, qui tout d'abord en fut comme abasourdie et n'y entendit rien. Elle qui tient rancune à la nier de lui avoir ravi et de garder toujours le bonheur et la moitié de sa vie. Jamais elle n'a voulu permettre à Jean d'exposer ses jours aux perfidies de l'onde, et pour solutionner cette grave objection, il faudra tout au moins que monsieur le curé fournisse l'appoint de toute son autorité et de sa clairvoyante sympathie. Effectivement, monsieur le curé s'est inquiété dans la solitude de son presbytère de l'absence de Jean qui lui manque depuis une longue semaine. On lui a bien dit ce qu'il y avait de nouveau chez les pèlerins, mais ne voir aux offices du dimanche ni la mère ni le fils lui fut d'un mauvais présage. Cela l'inquiéta, comme l'appréhension d'un nouveau malheur. Personne n'avait pu lui apprendre qu'ils avaient passé ce dimanche en haute société. Les hôtes, très honorés de leurs parents riches, sous les yeux ébahis des paroissiens de Kakuna, à l'église de cette paroisse comme dans la superbe villa. La maladie de Jean se serait-elle aggravée? Les nouveaux venus se feront-ils pour son élève d'un commerce fatal qui détruirait toute son œuvre? Que d'inquiétude tout à coup dans cette âme placide affublée d'un amour paternel! Le lendemain après-midi, deux voitures fort différentes stationnaient aux portes des Pignons Rouges, une motocyclette des plus modernes et l'humble cabriolet du vieux prêtre. Celui-ci, tout d'abord, dans la candeur de son humilité, apparut quelque peu s'intimider aux ouvertures si américaines d'Émile Dupin, qu'on lui a présenté et qui s'est délicatement excusé de s'y trouver en costume de cycliste. « Qu'à cela ne tienne, monsieur, lui répond-il, en ressaisissant l'ascendant de son caractère et de son âge. Vous ne voulez pas refuser de croire que j'ai été jeune aussi un jour et que j'aurais bien aimé les amusements qui vous sont permis. Mon plus vif regret sous ce rapport, ce serait de n'être plus jeune et d'avoir toujours été pauvre. » Oh, ne regrettez rien de tout cela, monsieur le curé, puisqu'il est vrai, comme vous l'enseignez, que le bonheur du riche n'est qu'un leurre, et la jeunesse toujours plus ou moins incomprise. Imprévoyante, voulez-vous dire peut-être, mais j'entends que vous parlez déjà comme un vieux. Seriez-vous philosophe? Très peu, trop peu, je le crains bien. Vous aurez plutôt à me pardonner d'être jeune. Et vous n'avez pas voulu vieillir plus que cela sans voir la patrie de vos pères. Voilà qui est bien. J'ai connu les vôtres autrefois, et vous vous honorerez des bons souvenirs qu'ils nous ont laissés. Et que dites-vous de la vie canadienne? Ce que j'en ai vérifié jusqu'à présent répond bien à ce qu'on m'en avait appris, et je l'admire. Peut-être que l'étude plus prolongée et plus approfondie modifiera cette première impression chez moi, qui ne suis pas né canadien. Autre pays, autre mœurs. Je ne sais pas bien encore ce qui pourrait l'emporter dans mon humble personnage, ou de l'atavisme canadien ou de l'ambiance américaine. Tiens, tiens, permettez-moi de vous le dire sans plus tarder. C'est facile à voir, en quoi je vous félicite aussi. Vous êtes bien canadien par le cœur, qui vous rapproche de bons parents humbles, et bien français par votre parler, ce que l'on ne trouve pas toujours, hélas, chez vos congénères de là-bas. Oh, cela, monsieur, tient à deux causes qui me laissent assez peu de mérite. Là-bas, si l'on accepte certaines plutocraties qui recherchent les oripeaux aristocratiques ou nobiliaires, les classes moyennes préfèrent au relief du lignage la valeur personnelle due à l'effort, au mérite ou au talent d'un chacun, au titre de vicomte ou de marquis, par exemple, celui du parvenu, du bachelier ou du simple athlète. Aussi en avons-nous des champions de toutes sortes. Partant, les mérites individuels y aplanissent plus facilement les inégalités sociales. Quant à mon parler français, si je n'ai pas fait comme d'autres qui poussent l'ignorance ou la stupidité jusqu'à travestir leur nom de famille, je le dois en premier lieu à ma mère, dont l'instruction bien française, puisée dans l'un de vos couvents, veilla constamment à préserver notre langue au foyer contre la contamination apportée de l'école ou de la rue. Je le dois ensuite, je veux encore vous l'avouer, à la fréquentation chez une famille de Parisiens immigrés chez nous et restés réfractaires au travestissement du langage. Comme vous le voyez, il ne me reste plus rien de vos éloges et vous ne ferez pas de moi pour cela un bien grand patriote canadien. De mieux en mieux, mon cher. Et pour toi, Jean, voilà la plus belle leçon que je n'aurais pu te donner sur le respect qu'il faut avoir pour sa mère et la langue de sa mère. Au fait, maintenant, que faisons-nous de Jean qui veut être malade? Jean, je l'emmène pour le présent, si vous le voulez bien, parcourir un peu la patrie de ses pères, comme vous dites, et plus tard nous verrons sous d'autres cieux si la patrie de ses pères se refuse à le mettre en valeur. Le vieux curé hésite, son œil s'est assombri. Un nuage passe évidemment dans son esprit, mais ce n'est encore qu'un nuage. Il faut en sourire, et il reprend. Et comme ils y sont morts! Ce mot est malheureux, il faut rompre. Soit, mon cher, et quand partez-vous, au premier bon vent? Peu importe le vent, le yacht est bon voilier avec machine auxiliaire. Si la brise ne donne pas, le moteur donnera. Nous partirons dans 3 jours. Le temps seulement d'armer et de ravitailler le vaisseau pour la course. Peut-être nous ferez-vous le plaisir, monsieur le curé, d'assister à notre partance au quai de Kakuna, et ne pas oublier votre adieu va. L'auto vous prendra et vous ramènera ici avec ma tante. J'y serai, oui, j'y serai, pourvu que vous me promettiez bien de veiller comme un frère sur mon Jean, de lui bien faire aimer le Canada, sa patrie, sans trop lui parler des autres deux qu'il ne connaît pas et n'aime pas plus que moi. La patrie, mon cher. Mais la patrie, monsieur le curé, là où l'on est bien, là est la patrie. Non, mon cher. Ah non, dit le vieillard en se levant brusquement pour prendre congé. Je vous souhaite d'être bien à bord de votre yacht sous le ciel canadien, sans rien oublier de ce qui reste au Pignon Rouge, et comme vous paraissez l'être sous d'autres cieux. Mais j'aurai l'occasion, je l'espère, de vous bien démontrer, à Jean et à vous-même, quoi qu'en ait pu dire Pacuvius et après lui Cicéron, dont vous paraissez vous réclamer, que le patriotisme n'est pas l'égoïsme dans le bien-être. Et que d'ailleurs, l'on ne saurait être tout à fait bien, ni heureux, sans la patrie. Chapitre 3. Première absence de Jean. Jean partit. Sa mère réalisa ce qu'elle n'avait pu comprendre dans l'agitation des quelques jours qui venaient de s'écouler. Le sort apparemment si heureux de sa sœur aînée, Madame Dupin, la reconnaissance si publique et si généreuse de leur parenté aux yeux des villageois, tout cela avait accaparé son esprit et l'avait empêché de réfléchir en son cœur sur le tournant où en était rendu son fils dans la vie. Elle n'a presque rien dit à l'encontre de la volonté de ce neveu qui lui a ravi momentanément son enfant, parce qu'elle ne savait pas encore ce que lui vaudrait cette première absence de celui-ci, parce qu'elle ne l'a encore jamais vu partir, parce que sa vie de campagnarde s'est trouvée trop subitement envahie par un luxe de bien-être et de choses dites qui la surpassent. Mais sur le quai, tantôt, quand elle a vu le vaisseau prendre le large, joyeusement pavoisé, à l'émerveillement de la foule curieuse et badaude, elle a commencé à comprendre que de loin on lui faisait des adieux. Maintenant, après le départ de monsieur le curé, elle se retrouve seule au foyer de ses tristesses, avec la jeune voisine qui remplacera pendant ses jours son fils dans ses entretiens. Elle comprend mieux que la communauté de sentiments entre mère et enfant, si intime et si absolue, qui faisait sa force et sa consolation, est pour la première fois en détresse, que dans les attaches si nombreuses et si fortes de leur cœur, quelque chose s'est irrémédiablement rompu. Cette première absence de Jean, cette cruelle séparation, qui l'a donc ainsi voulu? Qui? Jean lui-même? Non. Monsieur le curé? Non. Le cousin Émile? Oui et non. Celui qui l'a faite, à qui elle en veut, c'est son mauvais sort à elle, sa triste destinée cachée pour le présent sous les traits d'une affection charitable, que son cœur de mère saura bien reconnaître et honnir durant les heures de solitude et d'ennui. Jean s'en va dans une autre vie où sa pauvre mère ne pourra plus le suivre que de sa pensée et de ses regrets. On avait bien songé, il est vrai, au premier jour d'isolement qui la ferait souffrir. Monsieur le curé serait là pour la raisonner. Madame Dupin lui fera entendre que Jean n'est plus un tout petit enfant. Elle ira même jusqu'à lui laisser entrevoir que l'affection fraternelle s'emploiera désormais à éloigner de la maisonnette aux Pignons Rouges le spectre de la pauvreté qui l'a si longtemps hanté. Mais tout cela, c'est pour le passé, c'est pour l'avenir. Qui la consolera du présent? Rose Després est une charmante enfant de 16 ans, dont la mère fut de tout temps l'amie très intime de la veuve Pellerin. Rose et Jean, l'orphelin, s'étaient associés bien jeunes pour la randonnée quotidienne qui les menait aux leçons du catéchisme et les conduisit finalement le même jour, comme un frère et une sœur, à la table de leur première communion. Puis, à mesure qu'ils avaient grandi, avait aussi grandi la distance que leur imposait la réserve d'une candeur pourtant toujours affectueuse. À la place de Jean qui s'éloigne, Rose sera là, auprès de la veuve inquiète, constamment sous son œil alangui, dont les effluves d'amour maternel ne sauraient plus sur qui tomber. Elle lui servira de prétexte pour causer sans cesse de ce fils absent, tandis qu'à l'esprit de la jeune fille elle-même, l'image et le souvenir de l'ami d'enfance voudront bientôt, secrètement, inconsciemment, s'auréoler d'un sentiment jusqu'alors inconnu. Monsieur le curé ne fut pas longtemps sans revenir faire part à Madame Pellerin des graves réflexions que lui avaient inspirées les derniers événements. Lui aussi, dans l'improviste du départ des deux jeunes gens, n'avait pas su comprendre tout d'abord quel effet probable aurait chez son élève cette diversion subite dans une vie si monotone. Cependant, il n'a pas vieilli à l'étude des âmes et des caractères sans avoir acquis l'expérience qui fait prévoir les écarts de ceux-ci et les dangers que rencontre celle-là, aux jours apparemment les plus sereins de la vie. J'ai pensé, Madame Pellerin, que vous seriez inquiète de Jean, et je suis venue vous en parler. Ah, j'aime si peu la mer. Il est parti peut-être trop vite. Je n'ai pas eu le temps d'y penser comme il le fallait. Non, non, n'allez pas vous reprocher cela. La mer n'offre pas le plus grand danger qu'il peut courir actuellement. Avec un bon vaisseau comme celui-là et les gens qui le conduisent, les périls de la mer sont peut-être les moindres à redouter. Et il y en a un plus grand pour Jean. Mais quoi donc, monsieur le curé, vous me faites bien peur. C'est trop de plaisir pour commencer. Il y a trop d'argent, trop de bonheur mondain tout à coup sous ses yeux. « Si ce n'est que ça, le pauvre enfant en a vu si peu depuis qu'il est dans ce monde. »« Précisément, ne va-t-il pas rester ébloui? Quand tout cela sera disparu, ne verra-t-il pas tout jaune autour de lui, comme il nous arrive quand nous avons eu l'imprudence de regarder trop complaisamment le soleil ?»« Ça se passera. Ça se passera. Chez vous, chez moi, oui, et assez rapidement. » Parce que notre œil a vieilli, qu'il est tamisé par l'âge et l'expérience. Mais chez lui, il s'y brûlera peut-être. Malgré lui, le vieux curé se fait consolateur fatigant. Ce n'est pas ce qu'il aurait voulu auprès de cette pauvre mère, qui ne le comprendra qu'à demi. Il se reproche intimement d'accuser maladroitement sa préoccupation toute personnelle. De chercher un épouvantail du côté où l'œil et l'esprit de la paysanne ne voient que consolation et bonheur. Comme ces cachotteries sont malheureuses, il parlera donc plus ouvertement. J'avais mon secret, Madame Pellerin, qu'il vaut mieux vous faire connaître à cette heure. Et il me semblait qu'avec de la prudence et de la persistance, nous aurions pu conduire Jean jusqu'au clergé. Mais que voulez-vous ? Un jeune homme se déroute si facilement. Ce n'est pas son cousin qui l'en empêchera. Au contraire, les Dupin pourraient nous aider. Ma sœur m'a bien dit qu'elle ne nous abandonnera pas. Ce n'est pas non plus du côté matériel que je vois l'obstacle pour le moment. Oh non, je crains que ce jeune homme, élevé à l'américaine, ne lui laisse dans l'esprit des choses qui changeront ses idées. « Voilà. Je ne puis pas oublier ces dernières paroles, l'autre jour, par exemple. La patrie, c'est là où l'on est bien. » J'ai vu alors dans l'œil de Jean comme un éclair qui me présage l'orage. Trop tôt chercher les biens matériels, cela peut d'abord lui faire manquer son instruction et ensuite son vrai bonheur. Il sera mal situé entre son cousin riche, suffisamment instruit déjà, et nous, pour apprécier ce que valent indépendamment l'une de l'autre la richesse et l'instruction. Si encore ils en étaient au même point, au début tous deux de leur éducation, nous pourrions les associer aux mêmes études. Malheureusement pour Jean, il lui tardera plutôt de vieillir et de s'enrichir pour suivre son cousin. Tout ça dans une vacance? Je serai donc toujours malheureuse? À la vue de la pauvre femme qui pleure, le prêtre est décidément chagrin aussi, lui, de l'irrépressible impair qu'il commet. Allons, je veux croire que je me suis trompée, madame Pellerin. Il n'y a pas lieu de nous attrister encore, plaise à Dieu. Après les vacances, Jean reprendra ses études, n'est-ce pas? Nous verrons à le prévenir, à faire distraire, s'il le faut, l'effet qu'aura pu exercer sur ses projets et son caractère, l'influence de l'autre, retourné dans le grand monde, où il l'oubliera sans doute. Vous m'aiderez. Vous direz comme moi, et nous en ferons un homme sérieux. Tout de même, en retournant au village tantôt, seul et à part soi, il donnera sans plus de contrainte libre accès dans son esprit à la hantise de sa réluctante contre le prestige de l'argent. C'est l'ennemi contre lequel il aura à lutter, qu'il voudra défier en champ clos pour mener à bien l'enfant que le malheur lui a confié et l'élever non pour en faire un jouisseur, mais un intellectuel. Encore mieux, un apôtre, si possible, au service de Dieu d'abord, et de la patrie canadienne ensuite. À bord du yacht, le Dauphin, Émile et Jean ne déchantent pas ainsi. Ils ne se trouvent ni à l'âge, ni dans un milieu de circonstances où la vie se montre suspecte. Le touriste américain s'amuse des obséquiosités des gens à gages qui flattent ses caprices et le renseigne sur les choses de la navigation laurentienne. L'orphelin, de son côté, à mesure qu'il a vu s'amoindrir et s'effacer à ses yeux, là-bas, sur la rive fuyante, le profil de la maisonnette aux pignons rouges, n'a pu chasser de son esprit l'impression qu'il s'émancipait, grandissait d'autant, personnel et responsable de ses actes, sur ce pont tout étroit de vaisseaux où son être occupe une si grande place. « Ah, vous aviez bien raison, monsieur le curé de Saint-Germain, de craindre cette nouveauté pour l'avenir et la mentalité de votre élève. Vos pressentiments étaient justes. » Quand les ténèbres enveloppent le vaisseau de toutes parts et que l'œil n'y voit plus au dehors, sauf celui du marin, Émile et Jean, dans leur cabine bien aménagée, se plaisent à de longues causeries. Inutile d'ajouter que la partie du jeune Canadien dans ses colloques est de se faire tout oreille au bagout de l'étranger et de répondre à ses mille questions, peu intéressées, sur les mœurs et les conditions économiques de nos villageois. Un soir, qu'un brouillard opaque masquait tous les feux de marine et les points de repère, lorsque la navigation de plaisance devait irrésistiblement céder à la prudence, le yacht, sûrement ancré au fond d'une crique, les deux cousins s'entretenaient intimement, pendant que l'équipage de service roupillait dans le compartiment voisin de leur cabine. Émile voulut s'enquérir de la vraie mentalité de Jean et de ses aspirations précises. Où en était-il dans ses études? À quel objectif tendait-il? Le jeune paysan, dans ses réflexions et ses confidences à l'improviste, eut bientôt fait de lui apprendre le peu qu'il avait acquis de ses études, sans trop savoir encore ce qu'il pouvait escompter de son avenir. Vie rurale, vie professionnelle, vie apostolique, il entrevoyait un mélange de tout cela dans l'atmosphère dont l'entourait la sollicitude du curé de Saint-Germain. Mais dans tout cela, comme dans un brouillard aussi, il n'avait jusqu'à présent osé s'orienter. Élevé dans la charité d'autrui, il attend son sort dans la passivité. Voilà ce qu'Émile Dupin, déjà initié à l'étude psychologique, ne tarde pas à reconnaître et voudra combattre chez son cousin. C'est à la vie rurale qu'il va surtout s'attaquer. Cette vie rurale canadienne, dont il lui a été facile, depuis quelques jours à peine, d'apprécier et la simplicité et la monotonie. « Mon cher cousin, lui dit-il avec une maîtrise affectée, il règne dans toutes les sociétés des courants favorables dont il faut savoir profiter, comme le navigateur sait tendre sa voile du bon côté, aux brises souvent capricieuses errant à la surface des eaux. C'est l'occasion qui conduit à la fortune, et pour la trouver, cette occasion, il ne suffit pas de l'attendre dans son village natal. À Cincinnati, où l'aciérie Dupin fait tant d'affaires et tant de bruit, on vit dans un tourbillon de mouvements et de travaux. On n'attend pas la richesse de l'ondée qui tombe opportunément sur les guérets qu'elle féconde, mais du nuage ténébreux que pousse d'en bas dans l'azur du ciel l'haleine dévorante des fourneaux. Et comme résultat pratique de l'effort associé d'un chacun, dans ce vertige sans repos qui vous entraîne, chaque jour d'hiver comme chaque jour d'été, combien de tâcherons touchent à la fin du mois un gain en pièces sonnantes qui ferait le bonheur de maints paysans canadiens, bon an mal an. Vous autres, de père en fils, vous besogniez sur quelques arpents de terre pendant 30 ou 40 ans, et lorsqu'arrive l'heure d'en finir, c'est encore la même terre à labourer, la même misère que vous léguez à l'enfant, quelquefois avec vos vieux jours à entretenir dans la dépendance et dans la gêne. La vie champêtre, elle est belle surtout pour celui qui écrit des vers, comme ton ami Virgile. Mais, Virgile, il y aurait bien des choses que nous connaissons maintenant. Et je t'assure, Jean, que s'il vivait de nos jours et chez nous, ces bergers langoureux, fainéants et braillards auraient bientôt fait d'en croire, par exemple, les vendeurs de Papa Dupin et de courir après leurs chèvres en motocyclette. On appelle ça le progrès moderne, vois-tu? Malheureusement pour vous, paysans canadiens, vous retardez sur le progrès moderne. Cette incartade scandalisa un peu Jean. Peut-on se moquer ainsi de Virgile, que monsieur le curé tient en si haute estime? Pourtant, de penser avec Émile que la vie moderne demande à chacun plus d'entre gens, qu'il y a mieux à faire que toujours chanter les beautés de la nature, quand les biens de la nature sont là pour nous offrir la richesse, Jean ne peut tout à fait s'empêcher. Cela te contrarie peut-être, mon cher cousin du Canada. Tu m'écoutes avec étonnement, sans m'approuver, mais tu ouvrirais autrement les yeux si tu voyais quelle vie d'action, de travail, de risque et d'efforts de toutes sortes l'on fait chez nous. Avec cela, on arrive simple manœuvre et l'on devient inventeur, fabricant, négociant, financier, capitaliste. C'est là que l'on ne voit pas de sots métiers, pourvu que l'on ne soit pas de sottes gens. Il y a 30 ans, mon père arrivait à Cincinnati riche de ses deux bras et instruit de son courage. Heureusement pour lui, chacun de ses efforts, chacun de ses traits de valeur intellectuelle sont tombés dans un milieu où on a su les apprécier et les rétribuer. Car l'une des grandes qualités de l'âme américaine est celle qui fait reconnaître pratiquement le mérite d'un chacun, sans attendre les protestations de la pauvreté. Soyez vaillants, soyez intelligents, et la promotion n'attendra pas vos postulations. Pour monter, vous n'aurez pas à vous traîner à genoux aux pieds des gens en autorité. C'est ainsi que l'établissement Dupin s'est édifié. Et aujourd'hui, Charles Dupin, émigré du Canada pauvre comme tant d'autres, est devenu le chef, le maître d'une fourmilière industrielle où le minerai de fer se transforme pour tous les marchés en structures de toutes sortes, depuis la voiturette jusqu'aux travées de ponts métalliques des voies ferrées. S'il fut resté à cultiver la terre du patrimoine paternel à Saint-Pascal, depuis un siècle peut-être, tant de fois retourné et trituré sous les mains de trois générations. Il serait aujourd'hui riche de quelques cent piastres et du souvenir de ses ancêtres, ou obéré d'hypothèques sur ses immeubles canadiens, en se consolant avec monsieur le curé de n'avoir rien troqué de son sentimentalisme patriotique. Au lieu de franchir la frontière du Canada en mercenaire une première fois il y a 30 ans, et plus heureux, n'est-ce pas, il y a un mois, il n'aurait connu, lui et les siens, que les pauvres sentiers conduisant aux champs et aux bois, avec la route qui mène à l'église et au cimetière. Après lui, un autre Dupin aurait repris sa tâche dans les conditions pénibles de la petite épargne, du progrès lent et du rendement peu lucratif et incertain. Et vous appelez cela du patriotisme? Mon cher Jean, du haut de la double terrasse où s'étage la ville de Cincinnati, l'œil tombe sur la rivière Ohio, qui se courbe gracieusement au sud et que sillonnent en tous sens des centaines de bateaux. Ce n'est qu'un filet d'eau, cette rivière, dépourvue de pittoresque et de grandeur, pour qui voudrait la comparer avec votre incomparable Saint-Laurent, dans cette nature majestueuse qui se défile ces jours-ci sous nos yeux. Mais, depuis les terrasses jusqu'aux rives de l'Ohio, sur la falaise réduite en pente douce, s'étend toute une résille de rues où bruissent des centaines d'industries et où la richesse circule comme un torrent auquel chacun s'empresse de puiser son bien-être. C'est là que mon père a vu récompenser son travail et son intelligence. C'est là qu'il a pu jouir des biens et du bonheur de la vie. Et pour lui comme pour moi, la patrie, c'est là.